Bienvenue à tous et à toutes. Le journal est présenté par Clara Le Coq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. La peur des assureurs. Hier, la justice française a donné raison à un restaurateur qui souhaite faire indemniser ses pertes pendant le confinement. AXA, l'assureur, a fait appel et cela pourrait lui coûter très cher et faire jurisprudence, vous l'entendrez. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur un poids dont veut se débarrasser le gouvernement, le second tour des municipales. Il est prévu, ça y est, pour le 28 juin. À suivre aussi, l'opportune mise en cause d'un cousin de Bachar el-Assad en Syrie. C'est bien son confisqué et renfloue les caisses du régime syrien. Et puis la baisse de la production cinématographique en France à cause de la crise, ce n'est pas plus mal. Il y a une suroffre, nous dit un spécialiste en fin d'édition. Et l'on commence donc par ce qui ressemble à la victoire du pot de terre contre le pot de fer. Un restaurateur parisien a réussi à faire condamner l'assureur AXA qui refusait de l'indemniser pour ses pertes d'exploitation liées à la fermeture de ses restaurants. Fermeture de 2 mois au moins à cause de la crise sanitaire en ce moment. La décision de justice en faveur du restaurateur pourrait coûter très cher aux assureurs, Philippe Lefebvre.
Sans doute la décision du tribunal de commerce de Paris était très attendue par les restaurateurs et elle donne désormais des sueurs froides aux assureurs. Car si elle est confirmée, le groupe AXA ayant fait appel, eh bien nombre de compagnies d'assurance se retrouveraient alors dans l'obligation d'indemniser la majeure partie des restaurants français pour les pertes d'exploitation liées à la fermeture des restaurants décidée par le gouvernement le 14 mars dernier en pleine crise du coronavirus. Et cela pourrait représenter des sommes astronomique pour les assureurs, comme AXA, qui avait d'ailleurs multiplié les pressions au plus haut niveau en expliquant qu'il n'était pas question d'indemniser leurs clients car il ne s'agissait pas d'un problème de fermeture administrative ou sanitaire habituellement assuré, mais d'une pandémie pas prise en charge à leurs yeux. Et dans le cas des 4 restaurants parisiens de Stéphane Manigault, eh bien un expert judiciaire va devoir estimer maintenant très précisément le montant de l'indemnisation. Elle pourrait atteindre au final le million d'euros.
Merci Philippe Lefebvre. Le décret est publié au journal officiel et il entre immédiatement en vigueur. Les cérémonies religieuses pourront reprendre dans les heures qui viennent. Le ministre de l'Intérieur et les responsables des cultes se sont accordés sur les mesures à prendre pour assurer la sécurité sanitaire de tous. Désinfection des mains, masque obligatoire, filtrage à l'entrée. Dans ces conditions, il sera donc possible d'entrer dans une église, une mosquée ou une synagogue. Le Conseil d'État avait demandé en début de semaine de lever cette interdiction. C'est donc chose faite. Le ramadan doit notamment prendre fin demain avec la fête de la rupture du jeûne, l'Aïd el-Fitr. Moins de patients en réanimation en France. Après 12 jours de déconfinement, il n'y a pas pour le moment de signe de deuxième vague tant redoutée. C'est ce que disent des spécialistes qui restent toutefois prudents. Le nombre de patients en réanimation poursuit donc sa décrue, je vous le disais, avec 44 cas graves en moins à l'hôpital en 24 heures. En ce week-end de l'Ascension, le nombre de décès, lui, est toujours très difficile à évaluer. Et c'est donc après avoir pesé le pour et le contre pendant cette pandémie que le gouvernement estime que la vie démocratique doit reprendre ses droits. Le second tour des élections municipales aura lieu le 28 juin avec des précautions sanitaires particulières, évidemment. Cela concerne 5000 communes dans lesquelles le ou la maire n'avait pas été élu au premier tour. 16,5 millions d'électeurs sont concernés. Il était en fait important, Pierre Neveu, pour le président de la République comme pour le Premier ministre, de passer à autre chose.
À vrai dire, le couple exécutif n'avait plus vraiment le choix, alors que la vie économique et sociale reprend progressivement depuis le 11 mai, et faute d'un consensus dans la classe politique, le Premier ministre devait trancher. Il assume, il revendique la responsabilité politique de cette décision. Édouard Philippe en profite pour marquer son autorité et rassurer les électeurs comme les candidats en prenant en compte les contraintes sanitaires, en déclarant « la vie démocratique doit reprendre ses droits ». Le chef du gouvernement répond ainsi à l'appel d'une trentaine d'élus et de maires de grandes villes qui écrivaient dimanche dernier que la démocratie ne pouvait pas être confinée plus longtemps. Il souligne là l'importance de l'enjeu car bon nombre de commandes publiques sont bloquées depuis depuis la mi-mars. Le risque pour l'exécutif, c'est toujours celui d'une abstention record, 55% au premier tour, et d'une sanction pour le parti présidentiel. D'autant que cette élection donne une prime aux maires sortants qui se sont impliqués depuis maintenant plus de 2 mois dans cette crise sanitaire. D'où la nécessité pour le président de la République, comme pour le chef du gouvernement, de tourner la page de ces municipales le plus rapidement possible.
Voilà qui devrait compliquer considérablement les échanges entre Paris et Londres. Tout étranger arrivant en Grande-Bretagne devra être isolé pendant 14 jours, les Français également. Le Quai d'Orsay a donc décidé hier soir d'une réciprocité. À partir du 8 juin, les voyageurs en provenance, cette fois du Royaume-Uni, quelle que soit leur nationalité, seront invités à effectuer une quatorzaine. Nous irons à Londres tout à l'heure dans le journal de 7h30. D'ici là, zoom sur le cousin de Bachar el-Assad, cousin et soutien indéfectible au président syrien. Et pourtant, Rami Maklouf s'est vu saisir par la justice syrienne ses biens et tous ses actifs. Il a aussi interdiction de sortir du territoire. L'homme n'a plus les faveurs du clan Assad, Omar Waman.
C'est une affaire qui passionne les médias du monde arabe. En cause, Rami Maklouf, surnommé il n'y a pas si longtemps le roi de la Syrie, désormais paria du régime de Damas. À la tête d'un empire financier colossal, télécommunications, hydrocarbures, BTP ou banques, Rami Maklouf contrôlait avant la révolution plus de la moitié de l'économie syrienne. Ces dernières années, il a participé à l'effort de guerre, notamment en finançant certaines milices pro-Assad. Depuis, le régime de Damas est parvenu à reprendre la quasi-totalité du territoire, mais le pays est en ruine, exsangue, les caisses totalement vides. Et pour remettre sur pied les infrastructures, Bachar el-Assad ne peut compter sur le seul soutien de la Russie et de l'Iran, ces deux alliés dont les économies ont été durement frappées par la crise du coronavirus. Poussé à chercher de l'argent ailleurs, il a trouvé le prétexte officiel d'une opération de lutte contre la corruption qui vise plusieurs hommes d'affaires syriens, dont Rami Maklouf, longtemps protégé du clan Assad, signe d'un régime sans pitié et prêt à tout.
Il n'y a finalement que 2 survivants après l'accident d'un Airbus A320 hier sur une zone résidentielle de Karachi dans le sud du Pakistan. 97 personnes sont mortes, 2 donc ont survécu selon le dernier bilan donné cette nuit. Les opérations de sauvetage ont d'ailleurs pris fin. La NASA a donné son accord pour un premier vol habité de SpaceX. Il se fera mercredi prochain. 2 astronautes américains vont s'envoler à bord d'une fusée SpaceX. Ils sont en quarantaine stricte depuis 10 jours, à l'isolement partiel depuis la mi-mars. Et ce sera donc le premier vol habité américain depuis 9 ans, depuis 2011. Et pour s'envoler en gardant les pieds sur terre, quoi de mieux qu'un bon film à voir ou à revoir chez soi en ce moment, car les salles de cinéma ne rouvriront pas avant juillet au mieux. La crise sanitaire a empêché la sortie de plus de 200 films ces dernières semaines, et même avec la reprise, la production devrait baisser dans les mois et dans l'année qui vient. Pour l'universitaire Claude Forest, cette diminution de la production n'est pas forcément une mauvaise chose. Il s'en explique, tendez l'oreille.
Ce qu'on constate et ce dont se plaignaient les exploitants, et une partie des distributeurs d'ailleurs, depuis une dizaine d'années, c'est qu'il y avait une suroffre, une surdistribution. Parce que la production française, c'est 300 films par an. 300 films par an, c'est presque un par jour. On voit bien qu'il n'y a pas un marché pour un film français par jour. Les spectateurs n'y vont pas. Donc, de facto, les grosso modo, entre les 2/3 et les 3/4 de la production française étaient voués à une non-rentabilité en salle. C'est structurel. C'est structurel. Les gens vont voir un film et ils vont pas en voir 10 dans la semaine. Donc, c'est une diminution en 2021-2022 de l'offre française ou européenne. Ce sera absolument pas gênant pour le marché lui-même. Il y a trop de films. Il y avait trop de films, non pas produits, mais distribués en salle. Donc, je pense que là, les distributeurs ont été forcés, pour récupérer naturellement des recettes, de réfléchir à d'autres modes de distribution que la salle. Donc, si une partie de leur catalogue ne va plus en salle, y compris dans ceux-là qui sont restés en stock
C'était Claude Forest, professeur émérite en économie du cinéma à l'Université Sorbonne Nouvelle. Il est interrogé par Stanislas Vazak. Stanislas Vazak qui a d'ailleurs détaillé cet entretien en longueur sur notre site franceculture.fr à retrouver dès ce matin. L'atmosphère se rafraîchit un petit peu ce samedi avec des pluies qui traversent le pays d'ouest en est pour s'estomper en fin d'après-midi. Un temps couvert donc aujourd'hui, avant le retour du soleil tout de même demain. Et le mercure qui baisse donc. Ce matin, comptez 15 degrés à Brest et à Bordeaux, 16 degrés à Lille et à Strasbourg, 17 à Paris, 29 degrés à Nice.